Frédéric Barrère pour le journal. Bonjour Frédéric.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Pas d'insouciance à Noël et pour ces fêtes de fin d'année sous Covid. L'évolution de l'épidémie est préoccupante en France, en Europe et dans le monde. L'Italie annonce un reconfinement pour les fêtes de fin d'année. Les États-Unis autorisent un deuxième vaccin contre le coronavirus. En France, l'état de santé d'Emmanuel Macron est stable. Les examens sont rassurants selon un communiqué de l'Élysée publié à l'instant. Les inquiétudes du Haut Conseil pour le climat. La 5G alourdira l'empreinte carbone du numérique. Le Haut Conseil pour le climat a publié ce matin un rapport sur la 5G transmis au Sénat. Invité de ce journal, Stéphane Kerkov de l'association Agir pour l'environnement. Jean-Luc Brunel, l'agent de mannequin français mis en examen et écroué hier soir. Le scandale international impliquant Jeffrey Epstein, accusé d'exploitation sexuelle sur mineurs aux États-Unis, rebondit ce matin en France. Dans ce journal également, du Levant des Globes et ses concurrents de l'arrière et la prescription culturelle du week-end, l'adaptation en BD de Vernon Subutex. La météo, une perturbation traverse le pays d'ouest en est. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. Et puis à 13h20, secret d'info au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, nous verrons que face à la transition écologique, les constructeurs automobiles font de la résistance. Ils privilégient toujours les voitures lourdes et ils ont trouvé des combines pour éviter de payer une nouvelle taxe que Bruxelles veut leur imposer.
Jacques Monin, secret d'info à 13h20.
France Inter.
La crainte, c'est l'arrivée d'une troisième vague de l'épidémie de coronavirus après les vacances et les fêtes de fin d'année. L'Allemagne, cette semaine, qui reconfine. L'Italie, aujourd'hui, annonce un reconfinement à partir de lundi jusqu'au 6 janvier. Le premier ministre italien, Giuseppe Conte, veut à tout prix éviter un rebond de l'épidémie. L'Italie, Olivier Tosseri, est l'un des pays les plus durement touchés par la pandémie et déplore plus de 68 000 morts.
Préserver l'économie ou préserver la santé des Italiens, c'était le dilemme de Giuseppe Conte qui refusait de soumettre son pays à un nouveau confinement. Il a fini par céder et s'est adressé solennellement à ses concitoyens pour leur annoncer un confinement strict pendant les fêtes de fin d'année.
Nous craignons que la courbe des contagions reparte fortement à la hausse pendant les fêtes de fin d'année. En particulier, je veux souligner que le comité technique et scientifique s'est réuni et nous a fait parvenir un rapport dans lequel il a exprimé sa très forte inquiétude pour les rassemblements et pour l'envie diffuse et compréhensible de convivialité et de sociabilité qui caractérise les fêtes de Noël. Nous devons donc intervenir et je vous assure que ce n'est pas une décision facile, c'est une décision douloureuse, celle de renforcer des mesures de prévention qui sont nécessaires.
Terminer le découpage du territoire en zones de couleurs différentes selon la situation épidémiologique, toute l'Italie est placée en zone rouge, interdiction de voyager d'une région à l'autre, y compris pour se rendre dans une résidence secondaire, sauf pour motif de santé ou professionnel, le commerce de détail dont les bars et restaurants sera fermé, une seule sortie par foyer par jour sera tolérée. Aux tables des réveillons, une limite de 2 invités adultes est imposée. C'est la seule façon d'éviter une troisième vague de Covid-19 qui serait encore plus meurtrière que la précédente, assurent les autorités italiennes. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Voilà pour l'Italie. Aux États-Unis, la vaccination contre le coronavirus va s'accélérer. L'agence du médicament a autorisé hier en urgence l'utilisation du vaccin Moderna, une semaine après l'autorisation accordée pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Ces deux vaccins autorisés sont des vaccins à ARN messager. Quelle différence y a-t-il entre ces deux vaccins révolutionnaires? Véronique Julia.
Comme le vaccin Pfizer, Moderna utilise une technologie qui n'avait jamais fait avant le Covid l'objet d'un vaccin autorisé et commercialisé à grande échelle. En gros, dans cette technique dite de l'ARN, on injecte au patient un brin d'information génétique qui va permettre à l'organisme de produire les protéines du virus, ce qui déclenchera une réponse immunitaire. Ce sont des vaccins simples et rapides à fabriquer et leur efficacité semble assez exceptionnelle. Elle atteint 94,1% pour Moderna après la deuxième injection, 95% pour Pfizer. Et le profil de sécurité est considéré comme favorable. Il y a des effets indésirables dans une majorité de cas. Fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, ça veut dire que le corps réagit, mais il s'estompe au bout de 2-3 jours. L'essai de phase 3 de Moderna n'a pas montré de réaction allergique grave. Comme pour Pfizer, on a relevé quand même 3 paralysies faciales transitoires, sans pouvoir dire si c'est lié au vaccin. À surveiller. Donc, le gros atout de Moderna, en tout cas, c'est qu'il se conserve plus facilement, mais comme pour Pfizer, il reste des inconnus. On ne connaît pas la durée d'efficacité de ces vaccins et s'ils empêchent les formes graves, on ne sait pas non plus s'ils empêchent aussi la transmission.
Véronique Julia, aux États-Unis, encore, le président élu Joe Biden se fera vacciner lundi avec son épouse. Ils recevront une première dose du vaccin Pfizer. La vice-présidente Kamala Harris sera, elle, vaccinée la semaine suivante. Enfin, la Suisse a autorisé ce matin le vaccin Pfizer-BioNTech. La vaccination va donc débuter en Suisse au moment où le gouvernement fédéral a annoncé un confinement partiel. À partir de mardi, les restaurants, les établissements culturels et sportifs vont fermer. En France, l'état de santé d'Emmanuel Macron est stable et les examens sont rassurants. Le médecin du chef de l'État, Jean-Christophe Pirochon, dans un communiqué transmis par l'Élysée, précise qu'Emmanuel Macron présente toujours les mêmes symptômes de la maladie, mais qui ne l'empêche en rien de remplir ses fonctions. Hier, dans une vidéo, le chef de l'État a lui-même donné de ses nouvelles en appelant les Français à la vigilance face à un virus qui repart, a-t-il dit, encore plus fort. Et puis, Donald Trump a appelé Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État se sont parlé jeudi dernier. Le président américain sortant a souhaité un prompt rétablissement et une reprise rapide de toutes ses fonctions au président français. Enfin, un rappel, si vous souhaitez vous rendre en Corse, il faudra, à partir d'aujourd'hui, présenter un test négatif au coronavirus. Les tests, justement, dans plusieurs régions et en Île-de-France, on s'attend à une ruée sur ces tests avant Noël, une augmentation de 40% annoncée pour l'Île-de-France. Et pourtant, malgré ces tests massifs, il faut rester extrêmement vigilant au moment des repas de Noël, mais aussi au moment des réveillons du Nouvel An. Et en cette période de Noël, de vacances à la neige notamment, les guides de haute montagne font part de leur inquiétude sur les risques d'avalanche et plus précisément la bonne estimation de ces risques. Les professionnels de la montagne demandent aux vacanciers qui partent en promenade, en raquette ou sur les pistes de ski de fond de ne pas s'aventurer sur des pentes trop importantes. Les remontées étant fermées dans les stations, les pisteurs sont beaucoup moins nombreux et ce sont eux notamment qui renseignent Météo France sur la qualité de la neige et le risque d'avalanche. Et forcément, en l'absence de pisteurs, les bulletins météo sont moins précis, Rémi Brancato.
Pour mesurer le risque avalanche, les satellites aident, mais le gros des mesures s'effectue sur le terrain, précise Christian Jacquier, président du syndicat national des guides de montagne.
Il faut creuser la neige, regarder s'il y a des couches fragiles, mesurer les quantités de neige tombées pendant la nuit et surtout celles qui ont été accumulées par le vent. Météo France s'appuyait essentiellement sur les pisteurs qui travaillent dans les stations de ski, dans les sociétés de remontée mécanique. Le problème, c'est qu'en ce moment, elles sont fermées. Et puis l'autre limite, c'est qu'ils envoient des informations sur les domaines skiables, mais pas pour le hors-piste. Donc, il fallait compléter ça.
Météo France reconnaît une perte de qualité des informations, moins fine, mais elle reste fiable car il y a quelques stations de mesure automatiques. Les guides de montagne viennent aussi de signer une convention. 16 d'entre eux vont transmettre leurs observations aux prévisionnistes. Car même avec les remontées mécaniques fermées, les touristes arrivent et les randonnées en raquette ou en ski de fond présentent aussi des risques.
On appelle les pratiquants à être beaucoup plus prudents que d'habitude. On ne veut pas avoir d'accident qui viendrait mobiliser le secours en montagne au détriment du travail qu'ils sont en train de faire dans le cadre du Covid.
Et la première consigne, c'est de se renseigner auprès de professionnels de la montagne avant toute excursion.
Rémi Brancato. C'est le cadeau high-tech de ce Noël version 2020. Un smartphone 5G plus rapide, plus fluide, avec une consommation d'énergie plus responsable selon les opérateurs. Attention, cadeau empoisonné pour la planète selon le Haut Conseil pour le Climat. Le Haut Conseil pour le Climat alerte sur l'impact pour l'environnement du numérique avec le déploiement de la 5G qui a débuté cet automne, Hélène Chevalier.
Dans ce rapport, l'autorité indépendante estime que le déploiement de la 5G risque d'accentuer fortement l'empreinte carbone du numérique. En fonction du développement et de l'appropriation par les Français de cette nouvelle technologie, l'augmentation pourrait osciller entre 18 et 55% de plus par rapport à aujourd'hui. Des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires pour moitié dues à la fabrication des nouveaux smartphones ou objets connectés compatibles avec la 5G, la construction de nouvelles infrastructures comme les antennes relais et la multiplication des centres de données auront également, selon le Haut Conseil pour le Climat, un impact carbone non négligeable. Très critique, le HCC regrette qu'une évaluation environnementale préalable n'ait pas été effectuée avant l'attribution des fréquences aux opérateurs. Il recommande d'ailleurs que la diminution de l'empreinte carbone soit prise en compte dans l'attribution des prochaines fréquences. Commanditaire de ce rapport, la présidence du Sénat estime que ces conclusions confortent la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique. Elle doit être examinée le 12 janvier prochain.
Hélène Chevalier, invitée de ce journal, Stéphane Kharkov, délégué général de l'association Agir pour l'environnement. Bonjour Stéphane Kharkov.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à 13h. Alors, ce rapport du Haut Conseil pour le climat renforce vos inquiétudes?
Elles permettent d'objectiver. Ça nous donne des éléments, sachant que jusqu'à présent, nous y étions relativement dans un grand flou et on n'a que regretté ce grand flou, sachant que le gouvernement a voulu passer en force, a voulu mélanger vitesse et précipitation en attribuant les fréquences 5G, là où nous demandions de prendre le temps de récolter les données qui étaient produites par des experts, dont au Conseil pour le climat. Là, on mélange un peu les choses. Il y a des données qui arrivent après la décision, donc ça ne permet pas d'éclairer la décision publique.
Après les premiers déploiements des fréquences, mais avant d'autres qui doivent venir. Alors pour bien comprendre, Stéphane Kerkhoff, la 5G, si j'ai bien lu le communiqué d'Agir pour l'environnement, représente 10 fois les émissions à gaz à effet de serre de l'ensemble de l'éclairage public, c'est ça? Ou une fois et demie les émissions du transport aérien des avions en France? C'est le
oui,
risque
c'est
évalué
ça. C'est les données qu'on a découvertes au travers du rapport du Haut Conseil pour le climat. La 5G pourrait entraîner une augmentation de nos émissions de gaz à effet de serre de 2,7 à 6,7 millions de tonnes de CO2. Ça représente une fourchette entre 18 et 44% des émissions du secteur numérique. C'est tout à fait considérable. C'est la même chose en termes de consommation électrique. Le Haut Conseil pour le climat évoque une augmentation de 16 à 40 TWh. C'est l'équivalent de 3 à 8% d'augmentation de la consommation électrique française. Donc on a des données qui sont significatives. Et le problème, c'est que le gouvernement n'a pas souhaité organiser un débat public, n'a pas souhaité attendre les évaluations environnementales. Ce qui fait que le gouvernement a pris une décision purement et compense ça par une multiplication d'annonces superfétatoires du type référendum pour le climat, là où on attend des mesures concrètes. Donc on a d'un côté un président qui communique beaucoup, de l'autre un gouvernement qui prend des décisions climaticides, et au milieu, eh ben, des consommateurs qui sont supposés faire le bon choix alors qu'ils ne le feront pas.
Alors, Stéphane Kerkhoff, mais n'a-t-on pas besoin justement de la 5G au moment où se développe le télétravail avec le premier confinement, le second confinement, le deuxième confinement? Ce développement du télétravail a besoin de techniques, de nouvelles technologies, et dans le même temps, il y a un bénéfice qui est... On se dépasse moins, on n'utilise pas les transports pour aller travailler puisqu'on est en télétravail.
Oui, mais ça c'est déjà possible avec la fibre 4G. Par exemple. Nous ne sommes pas contre le numérique, nous souhaitons simplement qu'on fasse le bon choix au regard des critères climatiques. La fibre est 20 fois plus efficace que la 5G. Encore que la décision publique soit motivée à partir de données objectives, là où le gouvernement est allé à l'aveugle. Après, on aimerait aussi connaître quels sont les usages liés à la 5G. Nous, ce qu'on entend beaucoup, c'est pour accompagner l'explosion du streaming, pour accompagner l'explosion des milliards d'objets connectés qui vont collecter des données dans la sphère privative, et pour accompagner le déploiement de la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale. Une fois encore, est-ce qu'une démocratie mature n'est pas en mesure de débattre, de saisir? Il y a une seule agence qui n'a pas été sollicitée sur ce débat-là, c'est la Commission nationale du débat public qui aurait pu mener à bien une évaluation, un débat sur les coûts et les bénéfices. Or, ça n'a pas été possible. Le gouvernement a préféré une posture idéologique et le président a multiplié les propos pour le moins... discourtoire, notamment sur les amis et la lampe à huile.
Et la lampe à huile, oui. Stéphane Kerkhoff, qu'est-ce que vous proposez, vous? C'est un débat en quelques mots, c'est ça? Des autorités indépendantes qui publient des études également sur ces déploiements de la 5G? Des moratoires, comme dans certaines mairies?
Oui, nous, on incite aujourd'hui les mairies à multiplier les moratoires, une fois encore, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et obliger le gouvernement à revoir sa copie, remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire mener à bien des expertises, obtenir des données et prendre une décision sur la foi de ces données.
Merci. Merci beaucoup Stéphane Kerkhoff, délégué général de l'association Agir pour l'environnement. mis en examen et écroué Jean-Luc Brunel, l'agent de mannequin français accusé de viol par plusieurs anciens top modèles et soupçonné d'avoir joué un rôle de rabatteur pour le milliardaire américain Jeffrey Epstein, a donc été arrêté cette semaine à l'aéroport Charles de Gaulle alors qu'il s'apprêtait à s'envoler pour Dakar. Jean-Luc Brunel a été mis en examen en France pour viol et harcèlement sexuel. La justice américaine enquête également sur lui dans le scandale sexuel de l'affaire Epstein. Sophie Parmentier.
Jean-Luc Brunel est désormais incarcéré dans une prison en France, placé en détention provisoire dans le cadre d'un volet français de l'enquête. Le parquet de Paris avait ouvert son enquête en août 2019 pour viol, agression sexuelle aggravée, association de malfaiteurs visant des infractions de nature sexuelle susceptibles d'avoir été commises par Jeffrey Epstein et d'éventuels complices sur des victimes françaises ou sur le territoire français. Epstein s'est suicidé depuis cet été-là dans sa cellule américaine et la justice française a continué à chercher des complices présumés du milliardaire américain. C'est ainsi que l'agent de mannequin Jean-Luc Brunel a fini par être interpellé et il a été entendu pour la première fois cette semaine par des policiers, puis par un juge d'instruction qui a estimé hier soir qu'il y avait assez de charges contre lui pour le mettre en examen pour viol et agression sexuelle sur plusieurs victimes mineures ou majeures qu'il est soupçonné d'avoir harcelé. Concernant les faits de traite d'êtres humains pour les voyages et hébergements qu'il aurait organisés, Brunel a été placé sous le statut moins incriminant de témoin assisté. Une avocate de victime exprime sa satisfaction et commente. C'est ce que certaines victimes attendaient depuis plus de 30 ans.
À Béziers, trois policiers municipaux ont été mis en examen hier soir après la mort le 8 avril dernier d'un homme de 33 ans, Mohamed Gazbi, interpellé pour un contrôle pendant le premier confinement. L'homme au parcours instable aurait refusé le contrôle et résisté à son interpellation. L'un des policiers a été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les deux autres policiers municipaux sont poursuivis pour une non-assistance à personne en péril. Et puis concernant l'enquête sur l'attaque au hachoir devant les anciens locaux de Charlie Hebdo en septembre dernier, quatre jeunes pakistanais ont été mis en examen et incarcérés hier soir. Ces quatre hommes étaient en contact avec l'assaillant. Ils sont soupçonnés d'avoir été informés de son projet et de l'avoir possiblement incité à passer à l'acte. Le Vendée Globe, Yannick Bestaven, toujours en tête de la course autour du monde. Le skipper de Maître Coq a ralenti dans une zone de vent léger. Derrière lui, Charles Dalin sur Apivia se rapproche. Voilà pour la tête de la course. On vous propose à la mi-journée de regarder à l'arrière de la course où les skippers sont tout aussi méritants. À la 24e place, Alexia Barrier à bord de TSE for My Planet. Alexia Barrier, l'une des quatre femmes toujours en course, fait elle face à des conditions difficiles dans l'océan Indien. La Parisienne garde le moral. Il vise toujours le Cap Leeuwin au sud de l'Australie d'ici quelques jours. Alexandra Barrier avec Jérôme Val.
Ça me plaît aussi d'essayer d'aller le plus vite possible vers ce Cap Leeuwin. J'aimerais bien y être pour Noël. Ça sera un super cadeau de Noël. Donc voilà, je me suis fixé ça comme objectif à court terme. Bien sûr, je fais toujours attention au bateau. Et j'ai plutôt la pêche. J'étais un peu barbouillée ces derniers jours. Là, ça va beaucoup mieux. J'ai à nouveau faim. Je mange bien. Et les siestes de une demi-heure, ça le fait pour l'instant. Je sais qu'il faut tenir un petit peu là, quelques jours, se donner du courage. Et du cœur à l'ouvrage, ça va aller.
Ça va aller, Alexia Barrier avec Jérôme Val. La prescription culture de week-end pour refermer ce journal après Indélébile où il racontait ses années à Charlie Hebdo. L'Use est de retour avec l'adaptation en BD du premier tome de Vernon Subutex, la trilogie à succès de Virginie Despentes. Une adaptation fidèle dans laquelle le dessinateur a mis toute sa sensibilité et son vécu, Alexandra Hacoun.
Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer tant leurs univers se ressemblent, nerveux, rugueux, hypersensibles et ultra-rock, comme ce Vernon Subutex, ange déchu des années punk, disquaire victime des plateformes de streaming qui va se retrouver à la rue, une histoire de chute, de personnage cabossé par la vie avec lequel l'ancien dessinateur de Charlie Hebdo s'est tout de suite trouvé des affinités.
Je commence à bien comprendre ce que c'est que d'être un personnage cabossé, un personnage qui a deux vies ou un personnage qui prend conscience et qui doit prendre à bras le corps l'idée d'avoir perdu beaucoup de choses et qui doit se reconstruire.
Pour donner corps à la galerie de personnages qui gravitent autour de Vernon, Luz et l'auteur de King Kong Theory ont travaillé à quatre mains, mais pour Vernon, c'est dans sa discothèque que Luz, qui a été DJ, est allé chercher l'inspiration, lui qui depuis les attentats de 2015 ne pouvait plus écouter de musique, s'y est remis.
Par exemple, le jour de la mort de Bowie, que j'adulais et que j'adule encore, je n'arrivais même pas à écouter un seul de ses disques, et le fait de travailler sur Vernon. Tout d'un coup, à force de fouiller dans mes disques, il a fallu que j'en sorte un. Et le premier que j'ai vraiment écouté, je crois que c'est Hendrix. C'est pour ça que Hendrix, il est très présent dans le bouquin.
Une musique que le dessin de Luce salait gras comme un riff de guitare rock fait résonner de page en page dans une explosion de couleurs qu'on ne lui connaissait pas. De poésie aussi, comme lorsque Vernon plonge avec gourmandise dans le tatouage fleuri de Céleste. Une merveille.
Vernon Subutex par Virginie Despentes et Luce chez Albin Michel. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec les poulets de Loué. Par tous les temps, les fermiers de Loué élèvent leurs poulets en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski.
Une perturbation chemine vers les régions de l'Est, qu'elle atteindra en soirée. À la mi-journée, elle va arroser principalement le Midi-Pyrénées, le Limousin, le centre et le nord de la Seine. Dans l'ensemble, les pluies seront faibles. Et par l'ouest, c'est un régime d'averses qui se met en place. Des averses plus marquées cet après-midi vers la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse Normandie. Autour de la Méditerranée, le vent marin va donner un ciel de pluie du Languedoc à la région PACA. Des précipitations qui vont s'intensifier la nuit prochaine sur le Var et la Côte d'Azur en se mêlant parfois d'orages. Les températures partout au-dessus des normes vont évoluer cet après-midi entre 10 degrés à Strasbourg et 18 à Ajaccio. Il est prévu 16 degrés sur le Pays Basque et dans le Golfe du Lion, 14 près de la Garonne, sur la Bourgogne et en Rhône-Alpes et 12 degrés en moyenne sur la Bretagne, le Val-de-Loire et au nord de la Seine.
Jean-Michel Golinski de Météo France.